premier dimanche de l'Avent, première bougie, premier évangile, premier chapitre, verset 1. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ et Abraham est l'ancêtre de David. Abraham est le père d'Isaac, Isaac est le père de Jacob. Jacob est le père de Judas et ses frères. Judas est le père de Pérès et de Zéra. Leur mère est Tamar. Pérès est le père d'Esron. Esron est le père de Ram. Ram, le père d'Aminadab. Aminadab est le père de Nakhon. Nakhon est le père de Salma. Salma est le père de Boaz. La mère de Boaz est Rahab. Boaz est le père d'Obed. La mère d'Obed est Ruth. Obed est le père de Jessé. Jessé est le père du roi David.
David est le père de Salomon. La mère de Salomon était la femme d'Uri. Salomon est le père de Roboam. Roboam est le père d'Abia. Abia est le père d'Assa. Assa est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joram. Joram est le père d'Ozias. Ozias est le père de Yotam. Yotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ézéchias. Ézéchias est le père de Manassé. Manassé est le père d'Amon. Amon est le père de Josias. Josias est le père de Yéconia et ses frères. À ce moment-là, on amène les Israélites prisonnières à Babylone.
Après cela, Yéconia est le père de Shéatiel. Shéatiel est le père de Zorobabel. Zorobabel est le père d'Abihoud. Abihoud est le père d'Éliakim. Éliakim est le père d'Azor. Azor est le père de Sadoc. Sadoc est le père d'Akim. Akim est le père d'Éliud. Éliud est le père d'Éléazar. Éléazar est le père de Matan. Matan est le père de Jacob. Jacob est le père de Joseph. Joseph a pris Marie pour femme, et Marie est la mère de Jésus, qu'on appelle Christ.
Voici le total. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'au David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on amène les Israélites prisonnières à Babylone. Ensuite, il y a encore 14 générations jusqu'au Christ. Galates chapitre 4, verset 4 à 7. Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son fils. Il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Il est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. Oui, vous êtes vraiment ses enfants. La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. L'esprit qui nous fait dire « Abba, Père ». Donc, tu n'es plus un esclave, mais un enfant de Dieu. Et comme tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il garde pour ses enfants. Amen.
Nous allons prier. Seigneur, nous te remettons les jeunes, qu'ils puissent se réjouir en toi et tout ce que tu veux leur transmettre. Et nous nous plaçons devant toi, notre Père céleste, car nous avons besoin d'entendre ta voix, de recevoir de ta main ce dont nous avons besoin. Tu connais les besoins de nos cœurs et nous invoquons le secours de ton esprit afin que nous puissions être comblés au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais aborder, et par la suite d'autres thèmes, et des thèmes qui traversent la Bible. Ici, il s'agit, vous avez remarqué, d'une généalogie. Il y en a beaucoup dans la Bible. Je ne vais pas vous les lire toutes. Mais pourquoi, dans nos versions classiques, c'est Abraham engendre à Isaac, Isaac engendre à Jacob, Jacob engendre ainsi de suite. C'est intéressant de l'écouter comme ça. Pourquoi tous ces engendrements? Et pourquoi Matthieu commence son évangile de cette manière? C'est vraiment, on pourrait dire, un peu ennuyeux de démarrer le Nouveau Testament de cette manière. Ce ne serait pas, il me semble, notre choix. Pourquoi, en fait, Matthieu n'a pas commencé son évangile au verset 18, que je vous lis. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Alors là, ça commence à être intéressant. Il aurait pu sauter ces 17 premiers versets. Franchement, notre lecture n'est pas très indiquée pour une introduction à la fête qu'on va vivre à Noël. Donc, pourquoi ce choix de nom? Et on peut, d'autant plus qu'on peut constater que Luc, dans sa généalogie au chapitre 3 de son évangile, va donner d'autres noms. Pas tous, mais certains, oui. Alors, pourquoi ce choix? Alors, quand on part en voyage, on l'apprécie d'autant plus si on garde à l'esprit la destination. J'imagine, Sylvain, quand tu as pris l'avion à Bangkok vendredi, tu avais déjà en vue, ah oui, mais je retourne à la maison et je vais retrouver les amis. Si on a en tête notre destination, ça nous aide dans notre voyage. On a un objectif, un but. On raconte que lors de la famine en Irlande, dans le 19e siècle, le gouvernement était à court d'idées comment employer les gens qui n'avaient rien à faire et très peu à manger. Donc quelqu'un a eu l'idée de les mettre à faire construire des routes. Mais c'était des routes qui menaient nulle part. Il n'y avait pas de destination en vue, c'était seulement pour occuper les gens. Alors, traverser le paysage de ces récits dans l'Ancien Testament déjà, et ici maintenant, au début du Nouveau Testament, c'est tout différent si on sait où on veut arriver. Quelle est la destination proposée par Matthieu dans son évangile? Est-ce que Jésus aurait deux histoires, une histoire en Matthieu et une autre en Luc? C'est la même personne, mais ça commence à être compliqué. Ces complications, si vous avez deux nationalités, vous pouvez les connaître. Quand moi, je remplis les papiers officiels, par exemple, dans l'avion, lieu de naissance, si j'ai mon passeport suisse, je dois mettre Grabs. Si j'ai mon passeport anglais, je dois mettre Wallasey, Merseyside. Alors, voilà, c'est le problème. Je suis la même personne et semble-t-il qu'il y a deux lieux dont je dépends. J'ai mon acte de naissance qui prouve, si vous voulez venir vérifier tout à l'heure, et puis j'ai mon livret de famille. En fait, le chrétien, lui, est une personne avec deux histoires. Il a sa nationalité, la culture de son pays, avec ses ancêtres, son héritage. Et puis, il y a une histoire à laquelle il a été greffé. L'histoire du peuple de Dieu, de la descendance d'Abraham, héritée à cause de son union avec Jésus, le Messie. Comme moi, j'ai un autre héritage suite à mon union avec ma femme Dominique. De par notre attachement au Christ, fils de David, fils d'Abraham, on entre dans une deuxième histoire. Prouver son identité, surtout qu'on n'a pas de papier, n'est pas évident. Et peut-être certains parmi nous ont vécu ce drame. Parce que les gens ont tendance à avoir des doutes. Dans la société juive, donc, les généalogies étaient d'une première importance. C'était la manière d'établir le droit d'appartenir à la communauté du peuple de Dieu. Quand vous les lisez, il y a 9 chapitres au début des chroniques. Vous les avez lus dernièrement? 9 chapitres de généalogie. C'est très important. Et puis, les généalogies sont là aussi, en Esdras, par exemple, pour établir ou non si on a le droit d'exercer une fonction devant le Seigneur. De là, le souci de Matthieu de sortir le livret de famille de Jésus. Et pour ces lecteurs, il n'y avait rien de plus normal de commencer ainsi. Par contre, ça laisse quand même perplexe quand on constate qu'il n'a pas consulté les mêmes archives que Luc. Qu'est-ce qui se passe? Alors, d'une manière simple, Matthieu cherche à établir le droit de Jésus au trône de David. Si vous avez fait attention, il y avait plein de rois dans la généalogie, un seul est nommé roi, David, au verset 6. Parce que de David, un jour, sur le trône de David, un descendant devait régner éternellement. Et c'était l'attente de tout un peuple de ce jour-là. Et si on regarde au chapitre 2, verset 2, ces gens arrivent, les mages, et ils disent, où est le roi des Juifs? C'est le début. À la fin, Pilate va poser l'écriteau sur la croix, le roi des Juifs. Jésus est donc présenté comme ce fils de David, le roi David. Et ensuite, vous avez peut-être remarqué, prochain sur la liste, c'est Salomon. Si vous regardez Luc, c'est le fils plus âgé que Salomon l'aîné. C'est par Nathan que ça va passer. Mais ici, c'est la royauté dont il s'agit, la royauté de Jésus. Et bien sûr, après, ça suit la lignée des rois, parce que Matthieu veut relever que Jésus est dans la lignée royale. Luc, lui, trace la lignée légale. Il va à partir d'Adam, passe par Nathan, frère aîné de Salomon, est-ce que c'est pour ensuite suivre la lignée de Marie? Mais on peut dire que c'est un peu suspect. Et quand ses parents, au milieu de la nuit, présentent son passeport sur la frontière d'Égypte, les douaniers ont dû poser des questions délicates. Donc, si moi je suis mal à l'aise, est-ce que je suis né à Wallasey ou à Grapps? Quand je remplis mes papiers officiels, qu'en est-il par rapport à ce que nous lisons ici? Parce que encore, dans notre liste, il y a des noms qui sont laissés sous silence. C'est pas 14, 14, 14. Matthieu a fait un tri, un choix, 2 x 7, pour nous conduire quelque part, chaque fois. Et puis, il y a des situations laissées sous silence. Des secrets de famille, peut-être. J'ai raconté à certains que, lors du décès de mon papa, je devais vider les poches de ses habits. J'ai trouvé son acte de mariage, et pour la première fois de ma vie, j'ai su que mon père avait été marié avant. Alfred Sewell, divorcé. Ici, est-ce qu'il y a des secrets, des choses cachées? D'autant plus quand on découvre des caractères peu recommandables, Rahab. On connaît pas peut-être son identité nationale, mais on connaît son activité. Des mariages pas très réguliers. La femme d'Uri s'y trouve. Est-ce que ça doit nous conduire à être un peu suspicieux? Ou est-ce qu'en fait l'authenticité est attesté par la transparence de notre liste? Il me semble que Matthieu veut nous dire que le roi promis, le Messie, enfin là, est pleinement divin. Fils de David, il sera appelé à plusieurs reprises. Le fils promis à David, au grand roi, mais aussi pleinement humain. De par son incarnation, de par ses ancêtres. Alors, on va regarder un peu plus loin où Matthieu veut nous conduire. 3 fois 3 étapes. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et on a un résumé au verset 17. Le dernier verset qui était lu dans ce passage. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations, 2 x 7. Abraham, l'alliance, la promesse d'un descendant. D'un seul homme, Dieu va faire naître tout un peuple. Et à travers bien des épreuves, Dieu forge ce peuple dans une nation, comme il a promis. Et de cette nation, Dieu va choisir un homme pour régner, David, l'homme après son cœur, le plus grand roi d'Israël. Donc, en deux fois cette génération, Matthieu nous conduit d'Abraham jusqu'à la monarchie. Ce qu'il veut souligner, c'est l'arrivée de David à la royauté. C'est tellement important, c'est le plus grand roi d'Israël. 2 × 7. Et maintenant, deuxième partie du verset 17, depuis David jusqu'à la 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, ou jusqu'ils sont pris prisonniers à Babylone. 14 générations. C'est tout le contraire. Si ça montait jusqu'à David, maintenant, c'est la dégringolade jusqu'à ce qu'il soit envoyé dans un pays étranger, prisonnier. Le mouvement est inverse. De la grandeur, c'est la descente dans la honte. La tragédie pour le peuple juif. Ils étaient appelés à refléter la justice de Dieu. Ils sont tombés dans la corruption. Ils doivent quitter la terre promise. Le pays que Dieu leur avait donné après l'Exode, plus de roi, fini la monarchie. Voici ce que Matthieu veut souligner. La chute de la royauté en deux fois cette génération. La plus grande tragédie pour Israël, est-ce qu'il n'y a plus d'espoir? Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Situation de désespoir. Pays qui est sombré dans l'ombre de la mort. Il va naître une grande lumière. Le Christ va arriver. Il vient pour libérer de la honte. Le pays qui gisait dans l'ombre de la mort. Consolez, consolez mon peuple. Dis que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute. Jésus est là pour délivrer d'une situation tragique. Il est là pour établir le règne de Dieu et sa justice en réalité, en vérité. Ainsi, la royauté a atteint son vrai objectif. C'est la plus grande délivrance par le plus grand roi. Le plus grand roi d'Israël, David. La plus grande tragédie d'Israël, la déportation. La plus grande délivrance par le plus grand roi. Enfin, le Messie est venu. Il ne faut pas attendre un autre. Jésus est la destination du voyage à travers l'Ancien Testament, le terminus où l'Ancien Testament veut nous conduire. On parle de avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Jésus est le commencement et la conclusion du commencement. On a chanté « Le commencement est fin ». Jésus est la conclusion du commencement. Dans ce temps d'avant, et de par notre lecture, Matthieu veut nous dire que si on va vraiment comprendre la suite de l'histoire, le Nouveau Testament, il faut la situer à la lumière d'une histoire qui s'étend dans les siècles passés. La période de préparation est accomplie. Mot qui va revenir dans ces premiers chapitres de Matthieu tout le temps. En deux fois sept étapes. La venue de Jésus est un nouveau commencement. Il y a un avant aussi bien qu'un après Jésus-Christ. Et c'est l'Ancien Testament qui raconte cette histoire dont Jésus est le point culminant. Cela veut nous dire, si vous voulez savoir pourquoi je raconte tout ça, qu'il y a un dessein dans l'histoire. Ce n'est pas une série d'événements sans sens. Le Créateur a un dessein précis qu'il a annoncé d'avance. Il a signalé dans ses généalogies qu'il a tracé parmi les milliers d'options de noms qu'il aurait pu mettre dans ses généalogies. Il y a un fil pour conduire jusqu'au celui qui devait venir, le Christ, qui allait être révélé suite à l'annonce par les généalogies et les prophètes lorsque les temps furent accomplis. Comme on a lu en Galates 4, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de libérer tous ceux qui étaient tenus esclaves, prisonniers par la loi. Au temps marqué, Dieu a veillé sur l'accomplissement de son dessein d'amour. Même si ça s'est tardé. Peut-être aussi dans nos situations, l'action de Dieu tarde parfois. Mais est-ce que Dieu ne veille pas de la même manière? Un avant Jésus-Christ et un après. Ce premier dimanche de l'Avent, nous nous souvenons de cet événement donc, qui était en préparation depuis le premier chapitre de nos Bibles, la Genèse, avec ses généalogies déjà là et ses prophéties déjà présentes. C'est aussi l'aboutissement là où voulait conduire la loi. Cette histoire a du sens. C'est pas comme les routes en Irlande. L'événement est la réponse de Dieu à l'échec d'Israël, déportation à Babylone. C'est l'accomplissement d'un âge, le commencement d'un âge tout nouveau. C'est l'événement qui permettra de passer du statut d'esclave à la stature de fils et de fille. Si tu n'es plus esclave, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, fille. D'entrer dans notre héritage. Et parce que tu es fils, fille, tu es aussi héritier grâce à Dieu. C'est l'événement où la foi remplacera la loi. De prisonniers, nous devenons hommes, femmes, libres. C'est l'arrivée de la descendance annoncée à Abraham, en qui toutes les nations seront bénies. La preuve est ici même. Il est là, le descendant. Le roi promis au roi David est là. l'attente d'Israël qui mettrait fin à tous les esclavages, toutes les servitudes, est là. Voilà l'après Jésus-Christ, parce que Dieu a donné son Fils. En conclusion, je rappelle que l'avenir à venir révélera une grande multitude de toutes nations, tribus, peuples, langues, unies dans le Christ, le but de l'histoire. De réunir ce peuple de toutes les nations, c'était déjà le but pour Israël et leur histoire. Parce que Dieu, en créant l'homme, a voulu fonder cette grande famille. Et en envoyant son Fils, un nouveau commencement est là. C'est l'aboutissement du premier projet, la conclusion du commencement et le commencement de la conclusion. Où les hommes, les femmes régneront sur la création au siècle des siècles. Jésus est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen.